Vous écoutez RTL.
Il est midi et demi.
RTL Midi,
le 12-30,
Stéphane Carpentier, Bénédicte Tassin.
Ravi de vous retrouver pour RTL Midi et merci de nous rejoindre pour tout savoir de l'actualité, pour comprendre, pour commenter, vous le savez, c'est votre émission. Bonjour à tous, bonjour Bénédicte.
Bonjour et bonjour à tous.
Vos appels dès maintenant au 3210, vous avez la priorité, vous prenez la parole sur tous les sujets qui vous intéressent et vous nous rejoignez comme tous les jours sur les réseaux sociaux. Bénédicte, l'actualité, c'est d'abord cette première condamnation pour la société de production de l'émission Dropped.
Condamnation pour faute inexcusable, 10 personnes tuées dans ce crash d'hélicoptère pour cette émission de TF1. Document RTL, justice a été rendue pour l'épouse du caméraman Laurence Basnik, décédée dans cet accident. 8 jeunes totalement dévastés, ils ont appris avoir été victimes de leur instituteur pédophile il y a plusieurs années. Ils avaient occulté les agissements de cet enseignant de l'école de Villefontaine et de Vénissieux.
Et invité de RTL Midi dans un instant, Maître Grimaud, avocate de plusieurs de ces victimes.
-0,9% pour le chômage pour les 3 premiers mois de cette année. Première statistique trimestrielle sur l'emploi et une baisse sans éclat. Vendre du pain 7 jours sur 7 et toute l'année, c'est désormais possible pour les boulangers de l'Aube. Nouvelle contrainte pour ces derniers. Vive contestation de Téhéran avait après l'évocation entre Trump et Macron d'un nouvel accord sur le nucléaire iranien. Les présidents français et américains veulent imposer davantage de restrictions à l'Iran. Hassan Rouhani s'y oppose. La météo, Patricia Charbonnier, bonjour.
Bonjour.
Et plein de nuages dans le ciel cet après-midi.
Oui, avec en plus un petit peu de pluie en ce moment entre les Pays de la Loire, le Centre-Val de Loire, l'Île-de-France et la Champagne-Ardenne. Cette zone de pluie va se décaler dans l'après-midi vers le nord-est du pays, le Massif central et le sud-ouest. Le temps restera encore très ensoleillé entre les Alpes et la Méditerranée. Et puis à l'arrière de la perturbation dans le nord-ouest, progressivement, on va retrouver de belles éclaircies cet après-midi jusqu'en Normandie, sur l'Île-de-France et les Hauts-de-France, avec des températures comprises entre 14 et 28 degrés, 14 à Cherbourg, 16 à Lille, 17 à Paris et Bayonne et jusqu'à 28 degrés à Nîmes.
Et Patricia, le retour juste avant 13h pour les détails. Ensuite, vos rendez-vous, une histoire comme tous les midis, un jour sur la Terre et à 13h50, bien sûr, indispensable Laurent Gérard. La question du jour sur RTL.fr concerne un sujet qui fait débat chez professionnels et consommateurs. Faut-il autoriser les boulangeries à ouvrir 7 jours sur 7 toute l'année? Eh bien, vous dites oui à 76%. Alors, vos appels pour débattre au 3210, qui seront les gagnants et les perdants? Rejoignez-nous comme le fait déjà Evelyne, auditrice de Perpignan.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Autoriser l'ouverture 7 jours sur 7 pour les chaînes de pain, oui, bien sûr. Mais pour un artisan qui travaille déjà beaucoup, beaucoup dans la semaine, il ne faut pas que ce soit non plus une obligation. Alors, une autorisation, je veux bien. C'est vrai que ça m'arrange d'avoir ce boulanger qui est ouvert. Mais il ne faut pas que ce soit une obligation.
Appelez-nous au 3210. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
C'est une première. La responsabilité de la société de production de l'émission Dropped a été reconnue par le tribunal des affaires sociales de Nanterre. Une affaire complexe qui remonte au 9 mars 2015. Au cours du tournage de cette émission diffusée par TF1, deux hélicoptères étaient entrés en collision en Argentine. 10 personnes avaient été tuées. Souvenez-vous entre autres de Florence Artaud, de la nageuse Camille Muffat ou encore du boxeur Alexis Vastine. Aujourd'hui, c'est l'épouse du caméraman décédé qui a obtenu cette condamnation pour faute inexcusable. Écoutez ce document RTL. Christelle Basnik, réconfortée par cette décision de justice.
C'est un soulagement et c'est vrai que je suis satisfaite aujourd'hui. C'est une décision qui était très importante pour nous les familles des victimes, pour moi à titre personnel, pour mes enfants, parce qu'elle reconnaît qu'ALP a fait une faute inexcusable. Ça ne nous ramènera pas nos morts. Hein. Moi, ça ne me ramènera pas mon mari, ça ne me ramènera pas le père de mes enfants, mais justice a été rendue. Et les familles, on voudrait bien que la sécurité soit de nouveau sur les tournages et que nos maris, que les intermittents ne soient plus dans ces situations de risque. On voudrait que ça ne serve pas à rien et qu'ils ne tombent pas dans l'oubli.
Jean-Alphonse Richard, bonjour à vous.
Bonjour.
C'est vous qui avez recueilli cette réaction. On se tourne vers vous parce qu'on a besoin de comprendre. Que dit concrètement ce jugement considéré comme capital par les familles des victimes?
Alors, c'est un jugement de 12 pages qui conclut donc que l'accident de Laurence Basnik est dû à une faute inexcusable de la société société ALP Productions. Le tribunal reprend des extraits de l'enquête du bureau argentin de l'aviation civile selon lesquels les caméramens n'auraient pas reçu, je cite, des informations sur des questions de sécurité basiques ou encore que les deux hélicoptères avaient été enregistrés selon une réglementation moins exigeante en termes de sécurité. Les juges estiment donc que Laurence Basnik a été affectée à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité, sans avoir obtenu, je cite encore, l'information et la formation appropriées. C'était déjà les arguments développés par l'avocate de la famille du caméraman, maître Solène Le Tutour. Première fois donc qu'une responsabilité est clairement dégagée dans ce dossier. Un premier tribunal civil saisi à Paris par la mère d'une autre journaliste, Lucie May, ne s'était pas prononcée, avait indiqué qu'il fallait attendre la fin de l'instruction au pénal, enquête toujours en cours. Celui de Nanterre a tranché. L'avocat de la société de production n'a pour l'instant pas donné suite à nos sollicitations.
Et voilà pour cette première et ce décryptage RTL donc avec Jean-Alphonse Richard, chef du service police-justice de la première radio de France.
L'énorme choc pour ces 8 jeunes, tous anciens élèves de l'école primaire, des écoles primaires où officiait un pédophile à Villefontaine, en Isère et à Vénissieux. Ces derniers mois, ils ont appris qu'il faisait partie de ces victimes. Romain Farina, qui s'est suicidé en détention il y a 2 ans, avait été mis en examen pour viol sur certains des enfants de sa classe. RTL vous le révélait ce matin, ces jeunes adultes ont été confrontés à des photos, à des vidéos pédopornographiques qu'ils avaient occultées depuis des années. Frédéric Perruche, c'est la fin d'une instruction menée par les gendarmes, un travail titanesque et une fouille de longue haleine dans les ordinateurs, les CD et les DVD de l'ancien directeur d'école.
Exactement. Pendant une année, les gendarmes se sont plongés dans les milliers de photos et vidéos retrouvées sur les CD et DVD de Romain Farina, réalisées par l'instituteur lui-même à l'occasion de ses sinistres ateliers du goût. Sur les fichiers, ils ont retrouvé des prénoms, des dates et les images effroyables d'enfants violés, bandeaux sur les yeux, en pleine classe, derrière un paravent. Ce travail de fourmi a permis d'identifier 8 nouvelles victimes, dont 3 ont été abusées en 2002-2003, alors que l'enseignant enseignait à Vénissieux. Ce sont aujourd'hui des jeunes femmes âgées d'une vingtaine d'années qui ont appris ces derniers mois, comme Nadia en audition devant les enquêteurs, avoir été violée à de très nombreuses reprises par Romain Farina, des faits totalement occultés et qui ressurgissent brutalement. Traumatisant d'autant qu'il n'y aura pas de procès puisque l'instituteur s'est suicidé il y a 2 ans et que les gendarmes n'ont retrouvé aucune trace de complicité. Pas de partage de photos ou de vidéos pédopornographiques par exemple. Pour autant, si l'instruction touche à sa fin, de nombreuses victimes sur la 60aine identifiées à ce jour devraient porter plainte contre l'État pour faute lourde dans les semaines qui viennent. L'ancien directeur de Villefontaine avait en effet été condamné à 6 mois de prison avec sursis en 2008, mais il avait continué à exercer son métier au contact des enfants.
Frédéric Perruche qui a révélé ces informations pour RTL. Pour aller plus loin, nous sommes avec Maître Marie Grimaud, avocate de l'association Innocence en danger. Bonjour à vous.
Bonjour.
Merci
Bonjour,
de nous rejoindre, maître. Avocate aussi de plusieurs victimes de cette affaire de Villefontaine. Parmi ces 8 nouvelles victimes, maître, une jeune femme aujourd'hui âgée de 21 ans, elle a appris qu'elle avait été violée entre 2002 et 2003, alors qu'elle avait 5-6 ans. Est-ce qu'on peut savoir comment elle va ?
Ben, elle va très mal. Je suis extrêmement inquiète pour elle. Nous avons essayé de mettre en place un ensemble de professionnels pour l'aider à avancer et à faire face à son traumatisme. Le choc a été rude, hein, puisqu'elle a été appelée courant le mois de février pour lui demander de se déplacer dans un service enquêteur parce qu'elle aurait été victime de viol et d'agression sexuelle. Hein. C'est quelque chose qui lui a été annoncé par téléphone. Il a fallu qu'elle patiente plusieurs jours pour être auditionnée. Et au cours de cette audition, il lui a été révélé qu'elle avait été reconnue sur des vidéos, des photographies, sans qu'elle n'ait encore à ce moment-là de l'audition. Les souvenirs de tout cela, elle a été victime d'une véritable amnésie traumatique. Et à la suite de cette audition, elle a été laissée seule. C'est-à-dire que la justice est allée chercher un témoignage, je dirais à n'importe quel prix. Et que depuis le mois de février, cette jeune femme sombre doit faire face à des cauchemars, à des phobies, à des remontées d'images et d'informations qu'elle n'arrive plus à gérer.
C'est ce que vous dénoncez aujourd'hui, maître Grimaud, c'est cet abandon de cette victime qui se retrouve seule.
Lorsque nous sommes dans des dossiers comme cela, effectivement, il y a une recherche de la manifestation de la vérité qui est recherchée par tous, sauf que parfois elle va se faire au détriment de certaines personnes, dont ma cliente. Cette jeune femme avait réussi à reconstruire sa vie. Cette amnésie, elle a été brisée, rompue d'un seul coup, sans qu'il y ait une cellule psychologique, sans qu'un accompagnement se fasse. Elle me raconte que la personne qui l'a auditionnée était plutôt douce, agréable, mais sans qu'aucune réelle information lui soit donnée. Il n'a même pas été précisé à ma cliente au cours de son audition que M. Farina s'était suicidé en détention, qu'il n'y aurait pas de procès. Il ne lui a pas été précisé qu'elle avait droit à un avocat, qu'elle pouvait être prise en charge sur le plan psychologique. Elle a été auditionnée une heure et puis remise sur le trottoir du commissariat, ce qui est extrêmement violent. On peut se poser la question, et c'est la question qu'elle me pose sans cesse, c'est pourquoi êtes-vous venue me chercher ? Ma vie aujourd'hui est un désastre, je ne vis plus, je sombre, pour en plus avoir une absence de procès derrière. Donc c'est très compliqué de faire face à ce type de victime.
Pas de procès, pas de réparation du préjudice subi. Est-ce qu'elle pourrait porter plainte contre l'État, maître ?
Oui, c'est une chose que je lui ai proposée, plainte contre l'État sur deux choses. La première, c'est qu'il y a eu une condamnation de M. Farina en 2008, sur laquelle il n'y a pas eu une interdiction d'exercer auprès des enfants. Et puis surtout, une recherche de responsabilité très forte de sa part, mais de la part de d'autres de mes clients, sur le suicide de M. Farina en détention. Comment il a pu se suicider ? Il y a une enquête en cours qui a été diligentée, enquête dont les conclusions n'ont jamais été transmis aux victimes. Jamais. Elles n'y ont pas accès. Elles ne peuvent pas s'exprimer dans le cadre de cette enquête. Et tout ça, il va falloir en faire quelque chose. Nous pourrons également les faire reconnaître sur le plan civil. Mais si vous voulez, c'est toutes les limites de la justice. C'est comment faire face à ces victimes qui ne se sont jamais senties victimes, qui objectivement en sont, et quels sont les moyens que notre justice met en œuvre pour les prendre en charge. Il n'y en a aucun.
Maître Marie Grimaud, invitée de RTL Midi, merci à vous. Je rappelle que vous êtes l'avocate de plusieurs victimes de cette affaire de Villefontaine.
Muriel Boll peut rentrer chez elle. La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon a levé partiellement ce matin le contrôle judiciaire de ce personnage clé dans l'affaire Grégory. Muriel Boll avait 15 ans à l'époque. On la soupçonne d'avoir participé à l'enlèvement du petit garçon. Aujourd'hui, à 48 ans, cette femme va donc rentrer dans les Vosges, mais elle a toujours l'interdiction de contacter les protagonistes du dossier. Justice toujours, la garde à vue de Vincent Bolloré est prolongée. Le milliardaire breton est entendu par la police judiciaire de Nanterre depuis hier matin pour les soupçons de corruption en Afrique.
12h42, merci de nous avoir choisis et merci de votre fidélité. Dans un instant, le chômage en baisse, mais ce n'est pas non plus l'embellie. A tout de suite.
RTL Midi,
Stéphane Carpentier,
Bénédicte Tassard.
On attendait ces statistiques trimestrielles avec impatience. Elles sont tombées il y a une demi-heure. Moins 0,9% pour le chômage au premier trimestre de cette année 2018. 32 100 demandeurs d'emploi en moins. C'est bien, Martial Nou, mais ce n'est pas non plus extraordinaire.
Non, effectivement, ce n'est pas extraordinaire. C'est un rythme de croisière, puisqu'on était à peu près sur la même décrue au cours du dernier trimestre de 2017. Facialement, ça baisse donc, mais il y a quand même quelques motifs d'inquiétude. D'abord, la qualité des emplois. Vous avez moins de gens qui ne travaillent pas du tout depuis un an, mais ceux qui travaillent sont des contrats précaires de quelques heures ou de quelques jours seulement. Et puis ensuite, l'autre point noir, c'est qu'on n'arrive toujours pas, malgré une croissance solide désormais, à trouver une solution au chômage de longue durée et au chômage des seniors. Le nombre de demandeurs d'emploi qui pointent depuis plus d'un an a bondi de 6,5% sur un an et le chômage des plus de 50 ans reste orienté à la hausse, plus 0,4%. Alors en revanche, et ça c'est très rassurant, les jeunes de moins de 25 ans sont en train de sortir la tête de l'eau avec une baisse du nombre de demandeurs d'emploi de 4% environ depuis un an.
Voilà les chiffres avec Martial You sur RTL. Les premières réactions, celle du patronat ce midi pour Pierre Gattaz. L'important, c'est que la courbe baisse.
Ça va dans le bon sens, donc c'est plutôt une bonne nouvelle en effet. On aurait pu espérer un peu mieux. L'économie est en convalescence, elle se remet à repartir. Les chefs d'entreprise que je vois sont tous confiants. Ils cherchent tous à recruter. Ils ont beaucoup de mal à recruter d'ailleurs. Donc je crois qu'il faut continuer les réformes. Et je pense que progressivement, en effet, on verra, et je l'espère, des chiffres du chômage qui continueront de baisser. Alors j'espère peut-être un peu plus fort, mais ceci étant dit, c'est la tendance qui compte et c'est bien. Ça veut dire aussi que lorsqu'on fait baisser le chômage comme ça, on crée beaucoup plus d'emplois. Parce que vous avez tous les jeunes qui rentrent sur le marché du travail dans une démographie positive. Et donc en effet, en termes de création d'emplois, c'est aussi un bon signal pour la France.
Voilà, c'est un bon signal. Pierre Gattaz, président du MEDEF, au micro RTL de Christophe Ponzio. Et vous, auditeurs, est-ce que vous sentez que ça bouge sur le marché du travail ? Est-ce qu'il y a davantage d'offres d'emploi ? On a envie d'avoir vos regards et vos avis aussi de chefs d'entreprise. Nous attendons vos appels. Le standard est ouvert. C'est au 3210 3210.
Le conflit à la SNCF et cette concession du gouvernement au syndicat des cheminots, ces derniers seront bien reçus à Matignon, comme ils le réclamaient. Ce sera le 7 mai prochain. Elisabeth Borne, la ministre des Transports, faisait le point en fin de matinée sur les négociations.
Depuis le lancement de cette réforme, le gouvernement a fait des nombreuses avancées hein, sur les modalités d'ouverture à la concurrence, sur les garanties sociales qui sont données aux cheminots qui pourraient être repris par des nouvelles entreprises. Au lancement de cette nouvelle étape, comme le Premier ministre l'avait fait au lancement de la réforme ferroviaire, il revoit tous les acteurs et notamment les confédérations. Chacun est dans son rôle. Moi, je suis là pour apporter des réponses aux cheminots, celles qui ont déjà été apportées dans la loi et celles qu'ils seront dans le cadre de la négociation de la convention collective, dont j'ai à cœur qu'elle aboutisse d'ici décembre 2019.
Elisabeth Borne avec Anaïs Bouissou, le gouvernement qui veut également aujourd'hui rassurer le contribuable. Pas d'impôts nouveaux, pas d'augmentation non plus des impôts existants, mais c'est évident, précise Bercy, la reprise d'une partie de la dette de la SNCF se fera sur l'argent du contribuable. Des déclarations donc un peu obscures pour l'instant, nous restons dans le flou.
C'est un peu spécial, mais sachez qu'on recrute également dans les services antiterroristes. Vous l'avez entendu ce matin sur RTL, formidable immersion, je vous propose de réécouter sur rtl.fr. La DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, nous a permis de rencontrer les nouvelles recrues du renseignement. 1900 embauches d'ici la fin du quinquennat Macron. Des profils divers détaillés par Laurent Nunez, il est le directeur de la DGSI.
Nous avons besoin d'analystes, nous avons besoin de techniciens, nous avons besoin d'ingénieurs en informatique pour permettre de faire face à une menace qui est de plus en plus multiforme et aussi de linguistes pour traduire les nombreuses productions de l'adversaire. Bien sûr, on cherche à recruter les meilleurs d'abord et puis ensuite à les conserver, donc à leur offrir des parcours de carrière qui soient dignes de ce nom, avoir une vraie attractivité pour certaines langues plutôt rares. Il est parfois difficile de trouver des profils, mais on y parvient dans la mesure où on a, notamment après les périodes d'attentats, des engagements assez forts de certains jeunes, de certains techniciens, puis aussi de certains policiers qui veulent nous rejoindre pour lutter contre le terrorisme. Fort heureusement, ça reste des objectifs de vie professionnelle et même personnelle très fort chez la plupart de nos agents.
Explication de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, la DGSI, et de son patron au micro RTL de Thomas Proutot.
À l'étranger, la colère du président iranien Hassan Rouhani ne veut pas d'un nouvel accord sur le nucléaire, une proposition évoquée hier à Washington par Emmanuel Macron et Donald Trump. La feuille de route actuelle conclue il y a 3 ans et visant à empêcher Téhéran de se doter de la bombe nucléaire pendant 10 ans semble bien fragile aujourd'hui. Béatrice Hadjadj, pourquoi les Iraniens refuse-t-il de négocier un nouveau texte?
Bah écoutez, mettez-vous 2 secondes à la place des Iraniens. En 2015, ils étaient à 2 doigts d'avoir la bombe nucléaire. C'est une question de mois. Finalement, après des années de négociations, il renonce à toute activité nucléaire jusqu'en 2025, dans un accord qui a été signé aussi par les présidents Obama, Hollande, Poutine, Xi Jinping. D'autre part, pour prouver leur bonne foi, les Iraniens acceptent de passer sous contrôle des inspecteurs de l'AIEA, l'Agence de l'énergie atomique. Et en échange, ils ont obtenu la levée de l'embargo sur leur pétrole.
Et vous le dites, hein, donc Béatrice, les Iraniens ont respecté leur partie de l'accord.
Totalement, Bénédicte. Mais Donald Trump le trouve insuffisant, cet accord. Pour cette raison, pour le sauver, Emmanuel Macron propose d'y ajouter 3 nouvelles conditions. Interdire toute reprise de l'activité nucléaire iranienne après 2025, interdire les tirs de missiles iraniens et limiter l'influence de l'Iran au Proche-Orient. 3 conditions, vous le comprenez bien, qui affaibliraient considérablement l'Iran au Proche-Orient. Et affaiblir l'Iran pourrait être dans l'intérêt des Américains, dans le nôtre aussi, mais pas dans l'intérêt de l'Iran. Donc l'Iran refuse de renégocier un nouvel accord. Ils sont dans leur bon droit, dans le droit international, mais tout est une question désormais de rapport de force.
Béatrice Hadjadj du service étranger de RTL.
Une pause et dans un instant, jetez un coup d'œil dans votre carnet de santé car c'est la semaine européenne de la vaccination. RTL Midi la suite, il est 12h50.
RTL Midi.
Stéphane Carpentier.
Bénédicte Tassard.
Vous avez sûrement entendu les messages sur nos ondes, dans les autres médias, c'est la semaine européenne de la vaccination avec un contexte particulier cette année puisque depuis le 1er janvier dernier, 11 vaccins sont obligatoires pour les nourrissons. Diphtérie, tétanos, polio, mais aussi coqueluche, hépatite B, rougeole, oreillon, etc. Depuis, le dialogue entre les parents et les médecins se fait naturellement dans un climat assez serein. C'est ce qu'a constaté Elodie Guillard, qui est allée chez cette pédiatre de Puteaux en région parisienne.
Couchée sur le côté, Iliès, 4 mois, reçoit sa 2e série d'injections. Malgré quelques larmes versées par son bébé, Inès, sa mère est détendue. Avant la naissance, elle a longuement parlé vaccination avec sa pédiatre.
Je me suis dit, il y a beaucoup plus de vaccins qu'avant, il doit y avoir des nouveaux, qu'est-ce que c'est? On n'est pas non plus des cobayes, etc. Mais en fait, on a ouvert le carnet de santé et on a vu qu'en fait, c'était la même chose, quasiment.
Le docteur Kanselem prend le temps d'expliquer, d'argumenter scientifiquement et redouble d'inventivité pour faire passer les messages auprès de ses patients.
Quand on vous a proposé une voiture avec ceinture de sécurité, vous n'avez pas dit « je veux celle sans ». ceinture de sécurité, vous avez pris la ceinture de sécurité. C'est un acte pour être vivant. Prenez le grand luxe qui existe maintenant. Parce que depuis qu'il y a des nouveaux vaccins, il y a quand même moins de maladies.
Si la pédagogie reste nécessaire, l'obligation vaccinale a déjà permis, selon elle, de restaurer la confiance.
Quand on a un cadre défini et rassurant, le questionnement, le tout azimut, s'en va naturellement. L'obligation vaccinale a apporté plus de sérénité.
Dans quelques mois, espère-t-elle, le taux de couverture vaccinale aura retrouvé en France un niveau satisfaisant.
Merci Élodie Guillard du service santé de la Première Radio de France. On attend vos témoignages au 3210 dès maintenant. Est-ce que vous êtes à jour, vous, en termes de vaccination? Est-ce que vous êtes très vigilant par rapport à tout ça? Ou est-ce que vous êtes comme moi, vous demandez où figure tout simplement votre carnet de vaccination à la maison? Vous êtes les bienvenus au 3210. Est-ce que vous êtes des anti-vaccins aussi par rapport notamment aux nourrissons, aux enfants? 3210, on va en parler et dialoguer tous ensemble, évidemment. 3210 dès maintenant.
Faut-il autoriser les boulangeries à ouvrir 7 jours sur 7 toute l'année? C'est la question que nous vous avons posée sur RTL.fr. Et vous vous souvenez sans doute cette histoire. Ce boulanger de l'Aube qui avait écopé d'une amende de 3000 euros pour avoir ouvert son commerce tous les jours l'été dernier. Un arrêté interdisait jusque-là la vente de pain 7 jours sur 7 et imposait un jour de repos hebdomadaire. Et bien cet arrêté va être supprimé d'ici une dizaine de jours. Le pain pourra bien être vendu toute l'année et toute la semaine dans le département. Avec nous Antoine Netter, responsable de la communication de la Fédération des entreprises de boulangerie. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous militez depuis longtemps vous pour que les départements en finissent avec cet arrêté. Est-ce que c'est une nouvelle victoire pour vous?
Oui, on milite depuis très longtemps pour faire abroger ces arrêtés. Et oui, c'est une victoire pour la liberté d'entreprendre. C'est une victoire pour tous les commerçants, les boulangers qui veulent ouvrir 7 jours sur 7 dans le département de l'Aube. Et c'est aussi une victoire pour les consommateurs, comme le disait votre auditrice tout à l'heure, qui souhaite pouvoir acheter du pain chez son boulanger tous les jours.
Est-ce que ce n'est pas surtout un succès pour les industriels, pour les grandes surfaces?
Non, pas que. C'est dans l'Aube, on l'a vu, ils voulaient, les artisans voulaient en fait aménager cet arrêté pour permettre à ceux qui le voulaient d'ouvrir 7 jours sur 7, par exemple pendant l'été, pendant les fêtes, pendant les jours fériés. Nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir le faire toute l'année.
Mais ça implique des salariés en plus, des horaires d'ouverture élargis, donc des charges en plus. Est-ce que c'est possible? Est-ce que vous ne risquez pas? Est-ce que tout ça, ça ne risque pas d'être une menace pour ces artisans?
Alors non, parce que ce n'est pas une obligation. Chaque boulanger pourra faire ce qu'il veut. Il pourra ouvrir 7 jours sur 7 s'il est dans une zone où il y a beaucoup de passages. Il pourra ouvrir 6 jours sur 7 s'il le souhaite.
Oui, mais le concurrent, lui, pourrait ouvrir. Le concurrent, lui, pourrait ouvrir. Si moi, je ferme et qu'à côté, c'est ouvert, après, le lendemain, le client va aller chez le concurrent.
Je pense que les boulangers peuvent choisir d'ouvrir ou ne pas ouvrir. Et dans les zones où il y a beaucoup de passages, ils vont peut-être être ouverts tous les jours, mais ils auront les capacités, en fait, de recruter et donc de faire un meilleur chiffre d'affaires.
Merci beaucoup Antoine Netter d'avoir parlé rapidement avec nous de cette situation et
Merci.
De ce vrai débat qui s'ouvre, représentant de la Fédération des entreprises de boulangerie. Est-ce que vous, ça vous inquiète en tant qu'artisan boulanger? Est-ce que c'est une bonne nouvelle, particulièrement pour le secteur industriel, mais aussi pour les grandes surfaces? On nous dit non, vous l'avez entendu, venez argumenter, vous êtes les bienvenus, on voudra écouter les consommateurs et les clients aussi. Ça se passe dès maintenant au 3210. C'est vos avis, vos sentiments sur les réseaux sociaux et par exemple la page Facebook RTL, les auditeurs ont la parole.
Une pause et dans un instant, on prend des nouvelles de la météo.
RTL Midi.
La météo, Patricia, cet après-midi, eh bien, c'est nuageux.
C'est très nuageux au passage d'une perturbation qui va s'étendre du nord-est jusqu'au centre-Val de Loire, jusqu'au massif central et jusqu'au sud-ouest, avec localement quelques pluies faibles, très localisées. Derrière la perturbation cet après-midi, progressivement, on va retrouver un temps plus sec et de plus en plus d'éclaircies dans le nord-ouest, en Île-de-France et sur les Hauts-de-France. Et puis à l'avant de la perturbation, ça reste quand même bien lumineux près des frontières de l'est et même très ensoleillé entre les Alpes et la Méditerranée, avec des températures qui sont encore très élevées dans l'est et le sud. Cet après-midi, on attend jusqu'à 28 degrés à Nîmes, 27 à Montélimar, 24 degrés à Lyon, mais ces températures sont en baisse dans le nord et l'ouest, avec 14 degrés cet après-midi seulement à Cherbourg, 16 à Lille, 17 à Paris et Bayonne.
Et demain, Patricia Charbonnier, eh bien, le temps reste calme, mais toujours peu de soleil.
Ça reste assez nuageux, avec encore quelques averses près des frontières du nord et près des côtes de la Manche, surtout dans la matinée. Quelques pluies du côté des Pyrénées, progressivement dans l'après-midi. Le temps sera plus ensoleillé, avec le retour des éclaircies sur la moitié nord. Et ce sera toujours très ensoleillé dans le sud-est et sur le massif central, avec des températures comprises entre 5 et 15 degrés demain matin, 13 à 26 dans l'après-midi, donc ça baisse encore un petit peu. 13 degrés au Havre, 15 degrés à Lille et La Rochelle, 17 à Biarritz et Paris, 24 à Marseille et 26 à Béziers. Pour vendredi, c'est encore un temps assez calme, avec parfois de bons passages nuageux et encore des averses près des côtes de la Manche. Le temps va vraiment se dégrader, surtout à partir de ce week-end. C'est vrai que la fin de semaine, on a des passages nuageux, on a des petites averses, mais rien de bien méchant. À partir de ce week-end et surtout à partir de dimanche, là, le temps va devenir très instable et frais.
Nous voilà prévenus. Merci Patricia.
Il est 13h.
RTL Midi.
Stéphane Carpentier, Bénédicte Tassard.
Et le tout info des auditeurs ont la parole avec vous Stéphane.
D'abord les chiffres du chômage pour le premier trimestre 2018 publié il y a une heure par Pôle emploi. Désormais c'est de 3 mois en 3 mois, donc une baisse de 0,9% pour janvier, février, mars. 32 100 demandeurs d'emploi en moins, avec toujours beaucoup d'emplois précaires. Le recul le plus important pour les 25-49 ans. Bruno Ducoudray, économiste à l'OFCE, l'Office français de la conjoncture économique, est plutôt optimiste pour la suite.
On pourrait penser, compte tenu de ce que nous disent les chefs d'entreprise, que ça pourrait baisser plus vite, mais par contre, les fondamentaux de la croissance restent bons. Pour les entreprises, recruter, ça prend du temps. Il faut qu'elles remettent en branle, finalement, tout un processus de recrutement après plusieurs années où elles ont plutôt été dans l'optique de compresser les coûts, de diminuer le nombre d'emplois. Donc, on voit que les entreprises commencent à plus recruter en CDI. Ça devrait encore durer, cette baisse du chômage, sur les deux prochaines années de la croissance qui, pour nous, est encore là.
L'économiste Bruno Ducoudray au micro RTL d'Armel Lévy. Le moral des ménages en légère hausse au mois d'avril, chiffre de l'INSEE, en raison notamment d'un regain d'optimisme sur le niveau de vie futur en France. La justice a tranché 3 ans après la collision de 2 hélicoptères en Argentine lors de tournage de l'émission Dropped diffusée par TF1, avec la mort de 10 personnes, dont les sportifs Florence Artaud, Alexis Vastine et Camille Muffa. La société de production de l'émission a été condamnée ce matin pour faute inexcusable à indemniser la famille d'un caméraman mort dans l'accident. Muriel Boll autorisée à rentrer chez elle, personnage clé de l'affaire Grégory. La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon a levé partiellement son contrôle judiciaire. Elle va pouvoir retourner dans les Vosges. Muriel Boll, mise en examen, a toujours l'interdiction par contre de rentrer en contact avec les protagonistes du dossier. Maître Jean-Paul Tessonnière est l'un de ses avocats.
C'est un retour à la normale après une parenthèse extrêmement difficile pour elle. La grande préoccupation de Muriel, c'était sa séparation avec son fils cadet. Et donc, je crois que cette décision permet la reprise d'une vie plus normale et tout va rentrer dans l'ordre. Donc, elle va se réinstaller. Ensuite, l'objectif que nous nous fixons, c'est de parvenir à un non-lieu le plus rapidement possible, de manière à ce qu'il soit définitivement proclamé que Muriel n'avait rien à voir avec cette affaire.
L'un des avocats de Muriel Boll, maître Tessonnière, au téléphone RTL de Guillaume Chiez. La garde à vue de Vincent Bolloré prolongée. L'industriel breton entendu depuis hier à Nanterre dans une enquête sur des soupçons de corruption en Afrique. Des facs évacués ce matin. Intervention dans le calme des forces de l'ordre sur le campus de l'université de Lettres de Nancy et le campus du Solcy à Metz. Site bloqué par des étudiants, mais ils étaient rares ce matin lors des interventions car ce sont les vacances. La grosse prise en Espagne du jamais vu dans l'histoire du narcotrafic chez nos voisins. Les douaniers ont saisi 8,7 tonnes de cocaïne dans un port du sud de l'Espagne. La drogue cachée dans un conteneur de bananes en provenance de la Colombie. Le football et la Ligue des Champions. Le choc ce soir en demi-finale aller à Munich entre le Bayern de Ribéry et le Real de Benzema. 20h45 le coup d'envoi. Et des Espagnols conquérants emmenés par leur entraîneur, le Français Zinedine Zidane.
Le démontre avec leurs prestations, ils sont solides. C'est une équipe qui prend pas beaucoup de buts. C'est une équipe qui produit beaucoup de jeux. Ils sont dans une bonne dynamique. Et puis après, il y a bien sûr le fait que c'est un grand club surtout. Et les grands clubs, de toute façon, à les grands niveaux, ils sont là.
C'est une demi-finale de Champions League. On va essayer de défendre notre titre. On se joue la saison et la motivation va être plus qu'exceptionnelle.
Bayern Munich, Real Madrid, ce soir, 20h45. La Bourse de Paris, deux points à la mi-journée sur RTL avec vous, Sylvie Aubert d'Investir les Échos. Bonjour.
Bonjour Stéphane.
Sylvie, changement de climat. Hein.
Petit coup de froid sur la Bourse aujourd'hui. Le marché parisien se replie de 0,7%. 5405 points dans le sillage de Wall Street. Et oui, le Dow Jones et le Nasdaq, tous deux, ont perdu 1,7% hier. Alors deux raisons expliquent cette méfiance des boursiers en ce moment. D'abord la tension sur les marchés obligataires et ensuite la qualité des résultats des entreprises qui posent question. Alors le rendement de l'emprunt américain à 10 ans cote désormais au-dessus du seuil psychologique des 3%, à 3,02% exactement à l'instant. C'est un plus haut depuis le début janvier 2014 et cette tension pèse sur les actions. Les marchés pensent que le rythme de hausse des taux d'intérêt aux États-Unis devrait s'accélérer. L'autre force qui influence les marchés, c'est bien entendu la publication des comptes trimestriels des entreprises et les dernières parutions ont déçu. Les sanctions sont donc très sévères en bourse. Hier, regardez, Villemorin a plongé de 16%. D'ailleurs, elle perd encore 3% aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est le tour de Tarkett d'être sur la sellette. L'action abandonne 12%. Alors, on a quand même des bonnes nouvelles. Par exemple, Kering, qui bondit de 6% et BIC, plus 5%. Et après sa chute d'hier, eh bien, Eurofins Scientifique regagne du terrain, plus 5% aujourd'hui. Enfin, les comptes de ST Microélectronique ont été très bien accueillis. Le titre progresse de 4%.
Et affaire à suivre, merci. Le point à la mi-journée sur RTL avec Sylvie Aubert, donc d'Investir les Échos.
L'histoire du mercredi, c'est un jour sur la Terre. Avec vous, Julien Fautra, bonjour.
Bonjour.
Vous nous racontez ce séisme, hein, carrément, un séisme dans le monde de la pétanque. Le jean bleu est désormais interdit sur les boulodromes.
Oui, c'est la stupéfaction sur tous les terrains de France. Parfois usé, parfois même troué, rendez-vous compte, le jean bleu ne serait pas suffisamment convenable. Pour l'instant, ce ne sont que les compétitions fédérales qui sont concernées. Mais la Fédération française se plie en quatre objectifs. Les JO, que la pétanque devienne enfin, Stéphane, on sait que c'est un de vos combats, que la pétanque devienne enfin un sport olympique. Imaginez, 2024, Paris, une compétition sur le Champ de Mars au pied de la Tour Eiffel, ça aurait de l'allure. Et dans ce tableau, le jean fait tache. Privilégie alors, Bénédicte, un joli pantalon en toile pour vos vacances Place des Lys à Saint-Tropez ou même un saillant pantacourt qui lui est parfaitement autorisé. Nice, puis Marseille, la nouvelle gagne enfin tout le territoire et la grogne monte. Le responsable d'un boulodrome de Haute-Saône joue même désormais déguisé en clown. Cela n'est pas interdit, il entendait montrer l'absurdité du règlement. À Nîmes, le 1er mai, ce sera opération jean obligatoire. Bref, les amateurs de boules et de cochonnets s'organisent et dénoncent une pantalonade.
Vous nous parlerez peut-être des tongs la prochaine fois, non
si
les
tongs sur le boulodrome.
Récit RTL, Julien Fautra, un jour sur la Terre. À podcaster sur notre site rtl.fr.